Ici, des hommes de la planète Terre ont posé pour la première fois le pied sur la Lune en juillet 1969. Nous sommes venus en paix au nom de toute l'humanité.
Émission en antigravité aujourd'hui, la Lune qui est le point de fuite de notre émission ce matin n'est bien sûr pas seulement et de loin ce corps céleste inerte et infertile se contentant de tourner autour de nous. Elle n'est pas qu'une voleuse de grand chemin comme l'a qualifié Shakespeare et Nabokov, ni simplement une gigantesque réserve de minerais ou un champ de bataille comme on l'a évoqué il y a quelques minutes. Au contraire, elle est un des éléments les plus importants de l'imaginaire humain, et que son sol ait été foulé ou non il y a 50 ans tout juste, qu'on la connaisse désormais mais par cœur, qu'on ait pu explorer le sol de sa face cachée récemment, n'y change rien. Son pouvoir d'attraction reste intact. On va le constater maintenant. Philippe Hénarejos, vous êtes resté avec nous, journaliste, rédacteur en chef de Ciel et Espace. Vous êtes l'auteur d'une somme publiée chez Belin. Ils ont marché sur la Lune, le récit inédit des explorations Apollo. On en dira un mot. Et puis Philippe Malgour est également avec nous. Il vient de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là. Co-commissaire aux côtés d'Alexia Fabre de l'exposition Sur la Lune, qu'il faut aller voir. Il faut se dépêcher d'aller la voir au Grand Palais à Paris en ce moment. C'est jusqu'à lundi, une exposition de plus de 200 œuvres au long d'un parcours débutant par le voyage, et un parcours qui nous fait ensuite remonter le temps et l'imaginaire.
Oui, c'est peut-être un peu paradoxal, et c'est pourtant l'idée qui nous a frappé quand nous avons imaginé cette exposition, pour laquelle nous avions très peu de, absolument aucun cahier des charges. C'est que la représentation que nous avions de ce voyage était comme le point culminant d'un désir préhistorique de l'humanité d'aller sur la Lune. Et puis l'analyse, en tout cas, que nous avons fait en termes d'historien de la culture, a prouvé que c'était pas tellement vrai, que dans le fond, l'homme, depuis longtemps, a ce seuil, c'est comme une espèce de porte d'un ailleurs qui est complètement inaccessible, mais un seuil qu'on peut presque atteindre, au moins par l'imagination. Et depuis l'Antiquité, il a vu que quand même que c'était peut-être, ça fait rêver, mais c'est aussi peut-être un caillou stérile, ça ressemble à un fromage. Donc il y a une espèce de relation d'intimité, de proximité, mais qui inclut aussi un certain désenchantement, un certain scepticisme. Et dans le fond, la question qui nous a été le plus souvent posée quand nous avons fait visiter cette exposition, qui débute donc par ce voyage, c'est qu'est-ce que ça a changé dans l'art et la culture? Eh bien, rien. Et ça, c'est vraiment très étonnant. Non seulement parce qu'il y avait déjà avant, mais pas seulement parce que l'histoire et la culture ne vont pas de pair. Et moi, je suis plutôt moderniste de spécialité. Et je trouve que la similitude avec la découverte de l'Amérique, la découverte avec des guillemets maintenant, bien sûr, est très frappante. D'abord parce qu'elle a été soulignée dès le XVIIe siècle, de dire peut-être on ira un jour sur la Lune parce qu'on a pu aller en Amérique et on ne savait pas que ça existait. Donc, et évidemment, c'est resté présent jusqu'au moment de la conquête spatiale elle-même, puisque on a exactement copié l'imagerie de Christophe Colomb. Le vaisseau s'appelle Columbia, on plante un drapeau, Buzz Aldrin célèbre la messe dans le LEM. Donc tout ça est exactement modélisé sur la découverte de l'Amérique. Eh bien, la découverte de l'Amérique à la fin du XVe siècle, d'un point de vue de l'art et de la culture, ça ne produit rien. Alors que les conséquences historiques de ce fait sont absolument énormes, comme tout le monde le sait. Mais à la fin du XVe, les hommes ont dit « c'est la chose la plus importante qui nous soit arrivée depuis la création du monde ». Et Wernher von Braun a dit de l'alunissage...
C'est le père de Saturne V.
Le père de Saturne V.
Je parle sous le contrôle de Philippe Hénarejos.
Voilà, a dit « c'est la chose la plus importante depuis que la vie est sortie de l'eau ». Donc ce sont des termes très très forts. Eh bien, finalement, la culture et l'art n'ont pas tellement endossé cette position un peu sentimentale, presque, de réaction affective des protagonistes de cette histoire.
Ce que nous dit votre scénographie, Philippe Malgouir, c'est finalement que Apollo n'était pas un aboutissement pour l'humanité. Et en même temps, c'est un peu comme si on n'en revenait toujours pas d'avoir réussi cet exploit technique d'aller sur la Lune.
Bien sûr, et c'est pour cela que nous avons voulu évoquer matériellement la mission par quelques objets assez modestes qui parlent de la survie de ces hommes, puisque c'était quand même le plus grand défi, c'était d'envoyer des gens et de les ramener surtout. Donc on n'a pas voulu tellement montrer le, disons la prouesse technologique, etc., mais plutôt un certain héroïsme de ces trois hommes partant pour l'inconnu dans des conditions extrêmement précaires, voire douteuses, et montrer ça, que c'est ces quelques animaux, disons, de la même race que nous, c'est finalement 12 hommes seulement qui ont marché jusqu'à aujourd'hui sur la Lune.
Philippe Enarajos, vous validez cette scénographie, ce choix fait de commencer par le voyage. C'est du voyage au singulier réel, aux voyages imaginaires, on va développer là-dessus parce que ça prouve bien que l'imaginaire est beaucoup plus important et beaucoup plus vaste, mais on verra ça tout à l'heure avec Philippe Magouer. Philippe Enarajos, c'est ce qu'il fallait faire.
Ah oui, ça a l'air, c'est très intéressant. Moi, je suis pas plutôt versé vers cet aspect par rapport à la Lune. Moi, je m'occupe de ce que les explorateurs ont fait ou ont vu. Mais oui, c'est très intéressant. Le parallèle avec l'Amérique est étonnant. À la différence près qu'effectivement, l'Amérique, on l'a découverte sans savoir qu'elle était là.
Exactement.
Et que la Lune, on savait qu'elle était là depuis toujours. Et finalement, je me demande si c'est une vraie découverte, en fait.
Le fait d'avoir posé le pied dessus, est-ce que c'est une découverte? Et qu'est-ce que ça a changé? C'est la question qu'on pourrait se poser. Philippe Malgouin nous disait que ça n'a rien changé dans l'histoire de la culture, enfin dans la culture, mais au niveau évidemment.
Il y a quand même une chose, j'ai l'impression que ça a changé, c'est le regard qu'on a posé sur notre propre planète. Parce que ce qu'ont dit les astronautes d'Apollo en allant sur la Lune, c'est « nous avons fait tout ce chemin ». C'est les astronautes Apollo 8 qui parlent, les premiers à avoir tourné autour de la Lune en décembre 1968. Nous avons fait tout ce chemin pour explorer la Lune, et ce que nous avons découvert, c'est la Terre. Parce que ils ont découvert la Terre se lever derrière cet horizon lunaire totalement désolé, cette magnifique désolation, comme dira Buzz Aldrin au moment où il pose le pied sur la Lune en juillet 69. Eh bien, il y a un contraste saisissant entre cette oasis de vie, et ça c'est le terme de Neil Armstrong qui en parle après le retour, hein. L'oasis de vie qui est la Terre et ce monde désolé qui est la Lune, et le monde désolé de la Lune, eh bien on peut l'étendre à l'univers tout entier pratiquement, parce que l'univers connu aujourd'hui, le système solaire et au-delà, pour l'instant c'est un monde d'hostilité. Le seul endroit où on peut vivre correctement, c'est la Terre, et on en a pris encore plus conscience avec les missions Apollo.
Vous le faites, vous, ce voyage de temps en temps, Philippe Enarajos, vers la Lune, ce voyage imaginaire ou ces voyages imaginaires?
Ah, moi je le fais tout le temps, mais c'est un peu spécial. Je suis tombé dedans étant petit, donc ouais. Je suis peut-être le 13e homme sur la Lune, parce que en écrivant le bouquin, au fond, je me suis fait plaisir. J'étais avec eux sur la Lune, donc j'étais attiré par cet astre mort et qui est à la fois de même origine que la Terre, mais qui est pourtant très différent.
En fait, c'est bien plus riche d'imaginer peut-être ce voyage. C'est ce que vous avez voulu dire, Philippe Malgouer, avec ce titre, du voyage réel aux voyages imaginaires.
Parce que je pense que l'imagination, qui est d'ailleurs le meilleur outil de l'historien, hein, est aussi celui du scientifique. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'imagination au départ, il n'y a pas d'hypothèse scientifique, il n'y a même pas de projet. Le projet, il ne naît pas d'un constat. Il naît d'imaginer quelque chose qui n'est pas. Et de penser que tout ce qui paraît dominé par un processus rationnel, la construction d'une technologie, en fait, se rendre compte que c'est basé sur quelque chose qui relève, une chose qui n'est pas rationnelle, mais qui est de l'ordre de l'imaginaire, je pense que c'est très important. Et c'est aussi une des choses que l'on voulait montrer à travers l'exposition.
Ça, c'est bien plus puissant que n'importe quel moteur de Saturne V, Philippe Enarajos.
Ben oui, parce que sans ça, il n'y a effectivement pas le moteur de Saturne V. Le moteur de Saturne V, c'est le moyen d'arriver à l'idée qu'on peut avoir au début. Il y a des faits qui nous suggèrent des idées, mais si on n'a pas ces idées-là, et ces idées sont souvent d'autant plus originales et intéressantes qu'elles se nourrissent de la culture. Les scientifiques doivent être cultivés.
Alors, dépassons les premières salles de cette exposition au Grand Palais sur la Lune et arrivons auprès de cette famille d'explorateurs, casque noir sur la tête et combinaison en wax. Philippe
oui,
Malgouer.
Ce groupe de,
là, il y a de l'imaginaire
aussi. Sculpture de Shoni Barret, donc qui montre cette une famille de noir. Enfin, en tout cas, leurs casques sont noirs, opaques, donc on ne voit pas leur visage, et qui sont vêtus de wax, donc ce tissu fabriqué pour l'Afrique, mais fabriqué pour l'Afrique par les puissances coloniales. Donc c'est à la fois quelque chose qu'on reconnaît immédiatement comme africain, mais qui est en fait pas une émanation de cette culture elle-même. Et donc c'est une manière de... C'est toute une série d'œuvres sur... d'abord qui interrogeait plutôt l'absence de l'homme africain de cette conquête spatiale. Et là aussi, qui s'est enrichi, un thème qui s'est enrichi dans les dernières années du thème des migrants. Donc de cette famille dont elle a plutôt l'air en pique-nique qu'en détresse, mais il a aussi fait des pièces similaires avec des migrants qui transportent tout un barda sur leur dos. Évidemment, ça reflète des préoccupations qui sont très actuelles et qui, dans le fond, dont on comprend l'origine, mais d'une certaine manière, c'est assez dommage que l'humanité ne puisse pas se reconnaître dans l'homme avec un grand H et doive se reconnaître en elle-même au sens le plus strict du terme, en femme, en chinois, en africain, et c'est un fait historique que l'homme africain n'a pas été, l'homme noir n'a pas été associé, surtout aux États-Unis, ça a été dit et répété, surtout d'un point de vue social d'ailleurs, pas tellement d'un point de vue de revendication d'aller sur la Lune. Mais ça reflète vraiment profondément ce que sont les États-Unis.
La femme non plus, hein, n'est pas allée sur la Lune.
Et la femme, elle a été soigneusement exclue à la différence des Afro-Américains qui n'ont même pas été considérés, puisqu'il y a eu un programme Mercury 13 qui a été vraiment saboté délibérément par Nixon.
Philippe Pénarejos.
Oui, effectivement, à la fin des années 50, quand la NASA a sélectionné ses premiers astronautes pour aller dans l'espace, il y a eu une sélection de femmes. Non, ça pouvait pas aller à l'époque. Les États-Unis, les héros, c'était des hommes, forcément.
Ça a été imaginé, du coup, pas très longtemps, c'est ce que vous nous dites.
Elles ont été sélectionnées quand même, elles ont subi un entraînement, elles ne les méritaient pas, loin de là, elles avaient les mêmes capacités que les sept magnifiques que l'on connaît, qui ont volé dans les capsules Mercury, mais l'ordre a été donné de les laisser au sol.
Ouais, c'était politique.
Hein, comme c'était soutenu, en fait, par le médecin qui avait établi les protocoles de recrutement des astronautes, ça a été assez loin, en fait. Ça a été d'ailleurs subventionné par lui. Et au moment où il a fallu leur donner accès à des sites militaires, on a pris ce prétexte vraiment administratif pour torpiller cette histoire.
Alors avec cette exposition du voyage réel aux voyages imaginaires au Grand Palais en ce moment, vous remontez très loin, Philippe Malgouir, vous explorez à peu près toutes les disciplines artistiques et vous allez jusqu'à l'Antiquité, preuve que quand il s'agit de la Lune, on touche à l'universel, ça fait partie de nous depuis toujours, la Lune est là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'Amérique on l'a trouvée par hasard, la Lune on savait qu'elle était là depuis toujours.
Bien sûr, c'est assez fascinant de penser que ce satellite, c'est une chose que dès qu'il y a eu des hommes sur Terre, ils ont observé les mouvements et les changements justement de cette chose, de ce phénomène céleste, en constatant très rapidement la périodicité. Il est certain que le premier calcul du temps, au-delà du passage du jour et de la nuit, a été fait en fonction de la Lune. Que c'est la structure la plus archaïque des calendriers dont on a gardé un vestige dans le mois, puisque le mois, c'est le vestige de ce calcul du temps par la Lune.
Mmh. Les différentes religions se sont nourries évidemment beaucoup, et il y a beaucoup de références à ça dans votre exposition, du cycle lunaire et de ce type de calendrier qui était disponible effectivement très vite. Très facilement.
Bien sûr, et les religions sont le conservatoire de choses archaïques qui se fossilisent en quelque sorte dans ce contexte symbolique. Donc la Lune est restée très importante dans les calendriers liturgiques, mais encore une fois avec un bémol, c'est-à-dire qu'il y a finalement relativement peu de cultures où elle occupe une place centrale dans le panthéon, à la différence du soleil qui est évidemment une représentation absolue, hein, de l'omnipotence, de la permanence, de la bienveillance aussi, de sa chaleur, de sa lumière. La lune, eh bien, elle rentre souvent plutôt dans des cosmogonies, mais elle a reçu très peu de culte en tant que telle, même si elle est un des aspects ou une des manifestations de nombreuses divinités.
Mmh. On croise Rodin dans votre exposition, présentant la Terre et la Lune, jumelles comme deux corps s'embrassant fougueusement. Il ne savait pas à l'époque que les deux corps, la Terre et la Lune, étaient finalement... l'une issue de l'autre.
Exactement, et on était très heureux de pouvoir présenter cette œuvre qui vient de Cardiff, parce que ces deux femmes sortent d'une espèce de rocher informe, comme cette planète primitive dont seraient issues à la fois la Terre et la Lune. Mais Rodin a hésité plusieurs fois sur le titre à donner, donc il ne faut pas donner non plus trop d'importance à ce fait.
Philippe Hénarajos, vous connaissiez hein, ce...
Ah non, je ne connaissais
cette
pas.
Cette œuvre-là.
Je ne connaissais pas du tout.
Et vous nous confirmez-vous, pour le coup, que la Lune, parce que ça c'est quelque chose qu'on a découvert justement avec l'émission Apollo, oui, il y a 50 ans, la Lune est issue d'une collision entre la Terre et un autre astre.
C'est il y a 4 milliards et demi d'années, la proto-Terre, c'est-à-dire la future Terre, qui était encore un astre en fusion, en train de se former, qui n'avait peut-être pas la taille de la Terre actuelle, a été percutée par une autre protoplanète, un peu plus petite, ou peut-être de même taille. Là, il y a encore des théories en concurrence. Tout ça s'est pulvérisé. Ça a fait une espèce d'anneau autour de la Terre, un peu comme un anneau de Saturne, qui en peu de temps a donné un grumeau. Et ce grumeau, ça a été la Lune. Donc la Lune, c'est le mélange de ces deux corps célestes qui se sont percutés et qui a une composition... similaire quasiment au manteau de la Terre aujourd'hui. Quoi.
Et ça a donné quelque chose dans lequel Auguste Rodin a pu un jour trouver un peu de marbre pour créer cette œuvre. Philippe Malgouir, cette lune sur laquelle on projette finalement tous nos fantasmes, elle est infertile, on le dit depuis tout à l'heure, techniquement, mais en fait elle est extrêmement fertile pour l'humanité. C'est ce qu'on voit aussi dans cette expo.
Exactement, et je pense que c'est peut-être une dimension de l'homme que nous avons trop négligé, c'est que l'homme aime croire. Il n'aime pas croire pour remplacer ce qu'il ne sait pas. Et on a longtemps justement pensé que si l'on éduque les gens, on va leur permettre d'éviter de croire des choses qu'ils ne savent pas, de remplacer la croyance par le savoir. Mais en fait, ce désir de croire, ce plaisir de croire, c'est une chose qui est fondamentale. Et même si on sait que la Lune... est maintenant comme un fait le lieu infertile qu'elle est, on continue à montrer des gens qui se balancent sur des croissants de lune et ça n'a rien changé à l'imaginaire parce que ce qu'on aime croire, on aime le croire parce qu'on choisit de le croire et non pas parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc c'est aussi ce que montre cette exposition, que c'est la relation qu'on a choisi d'avoir avec la lune, que c'est pas la lune qui nous a forcé à l'admirer parce qu'elle est admirable en elle-même.
La déesse Hécate, la déesse de la Lune dans la mythologie grecque, elle a trois visages. Elle est montrée aussi dans cette exposition. C'est le trois temps de la vie, hein, c'est ça, Philippe Malgouir,
C'est plutôt trois aspects de cet astre qui apparaît et disparaît, et donc qui, pendant plusieurs jours, est invisible, et pour les anciens, passait dans le monde infernal. Donc c'est un lien entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. C'est exactement ce qu'est la Lune dans le ciel. Donc elle est ce seul voisin auquel on peut avoir accès. Et d'ailleurs, cette déesse Hécate, c'est pour ça que je trouve très intéressant comme concept pratiquement, c'est une déesse des seuils. C'est-à-dire, elle protège le seuil de la porte de la ville, le carrefour. C'est un passage d'ici vers un au-delà qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc, c'est une déesse redoutable à ce titre.
Toujours présente, la Lune, mais toujours changeante. Alors, effectivement, il y a aussi phases qui alternent. Philippe Hénarajos, est-ce que cette Lune, qu'on connaît de mieux en mieux, sur laquelle, probablement, dans quelques années, on va s'installer, une base sera probablement, allez, d'ici 20 ou 30 ans, disponible en permanence sur la Lune, est-ce que cet astre fascinera toujours autant et fascinera d'autant plus, peut-être, qu'on le connaîtra mieux, paradoxalement, avec tout ce qu'on vient de dire?
C'est une question difficile parce que quand on réfléchit à l'aventure Apollo, par exemple, tout le monde s'est intéressé avec passion, une passion débordante à la Lune pour Apollo 11 en juillet 69 et dès Apollo 12 en novembre 69. Plus personne ne s'est intéressé pratiquement.
Et oui, mais 10 ans après, c'est revenu parce qu'on a célébré les 10 ans. Voilà. 20 ans après, c'est revenu.
Après,
là, on est à 50.
On fait des célébrations. Est-ce que cet intérêt va renaître? Probablement, si un jour des missions vont vers là-bas. Mais je pense qu'il y aura sans doute un travail d'éducation à avoir pour faire comprendre ce qu'on va chercher là-bas. Qu'est-ce que la science apporte? En quoi c'est intéressant?
Il faudra le faire avec aussi l'imaginaire, c'est ça la
question. Oui, mais l'imaginaire, je pense qu'on l'a quand même à nous, quelque part. On a envie d'aller voir de l'autre côté de la colline, de l'autre côté du fleuve, de l'océan, et de l'autre côté des planètes. Et la Lune, c'est la première d'entre elles. Donc, on a ça. Il faut juste l'entretenir.
Vous avez des yeux qui brillent en disant ça, Philippe Hénard-Jost. Philippe Malgouer.
Ce qui me frappe plutôt en tant qu'historien, c'est de voir qu'en 69, après qu'on ait ramené dans cette lessiveuse improbable ces trois hommes sur Terre, on a commencé à dessiner non seulement des villages sur la Lune, j'en reproduis un dans le catalogue, une cité de savants internationaux, donc une espèce de station internationale avant la lettre, et aussi des hôtels. Hilton avait dessiné des hôtels sur la Lune, et de tout ça, évidemment, on n'a même pas construit un cabanon sur la Lune. Donc, on revient 50 ans après au même délire, j'allais dire, aussi au même processus d'imagination, et on verra ce qu'il en sortira vraiment.
Tout ça est une affaire de cycle, décidément. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Philippe Malgouir, co-commissaire de l'exposition du voyage réel aux voyages imaginaires au Grand Palais à Paris jusqu'à lundi soir, faut se dépêcher. Merci aussi à Philippe Hénard-Jost, rédacteur en chef de Ciel et Espace. Je renvoie à cette Bible, j'ai dit somme tout à l'heure, c'est aussi une Bible, minute par minute, vous racontez vraiment dans Ils ont marché sur la Lune, l'ensemble des missions Apollo, et donc on a vraiment minute par minute avec une iconographie aussi assez incroyable, vraiment tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant sur la Lune. D'autres événements sont visibles, disponibles pendant l'été dans de nombreux autres lieux de culture. Il n'y a pas que cette exposition au Grand Palais. Vous retrouverez cette liste, notamment concernant deux films qui vont être à voir bientôt sur la Lune, sur la page des Matins d'été, à l'adresse que vous connaissez, franceculture.fr.